Adèle, bonjour. Julie et Emmanuel, bonjour. Une question d'abord à Julie et Emmanuel. Quel fut l'argument décisif que vous avez sorti pour amener Adèle dans votre avion?
Eh bien, on le cherche toujours, parce que je crois que Adèle pourrait répondre, mais on n'a pas été extrêmement clair.
Je pense que c'est plutôt une question pour Adèle, ouais.
Mais l'argument décisif, en plus, c'est pas vrai. Mais non, je pense que la seule chose qu'il y a, c'est que quand on s'est vus, on a dit très honnêtement et franchement où on en était du film, et on n'a pas cherché à survendre ou on a juste dit voilà, on en est là, on a envie de ça, et qu'est-ce que t'en penses?
Et Adèle, qu'est-ce qui vous a décidé à monter dans
le justement coup ces incertitudes, le fait que ça ait l'air en même temps sauvage et contrôlé, parce que au début ils m'ont dit voilà, on veut faire quelque chose de très créatif dans des conditions très réelles qui se rapprochent du documentaire, on n'a pas forcément d'autorisation, on sait pas forcément où ça va mener, mais c'est ça qu'on veut raconter. On veut raconter une jeune femme qui, suite à une perte, essaye de traverser un moment de sa vie. Et en même temps, ils ont dit, voilà, mais on a quand même une bride de scénario, est-ce que tu veux la lire? Et j'ai lu quelque chose d'extrêmement construit, mais où ils avaient une grande nécessité de ne pas s'y accrocher, de ne pas s'y reporter, de rien figer. Et ça, ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, bon, ils savent très bien d'où ça part, mais on ne sait pas où ça ira. Et du coup, j'ai eu envie de les suivre.
Il y a un gros travail de recherche en amont, je suppose. Vous avez rencontré beaucoup de monde, tant au niveau des équipes que même chez les grévistes, finalement. Est-ce que ce travail-là, vous y avez participé, Adèle?
Bah, eux, surtout, je pense, pendant des années. Et moi, après, oui, pour apprendre toute la technique des hôtesses de l'air, tout ce qu'il faut faire quand l'avion est vide, quand on accueille les passagers, quand on vend, comment on se fait déporter d'un endroit à l'autre, où est-ce qu'on est reporté, l'attente, le fait de jamais être dans le même rythme que les autres. Et puis toutes ces choses que, voilà, moi je voyage pour le travail et pour le plaisir, mais c'est pas mon travail. Et en prenant autant d'avions, je me suis rendu compte que d'un coup, de plus du tout avoir de prise sur son présent ou sa réalité, pendant plusieurs heures, quotidiennement, ça a quand même un énorme impact sur ta manière de voir les choses et de les choisir. Mais tout le gros travail en amont, c'est aussi surtout eux qui l'ont fait profondément.
Mais après, le travail se faisait aussi sur le plateau lui-même, parce que comme tous les autres rôles, ce sont des gens qui jouent leur vrai métier. En fait, c'était ça qui était chouette aussi, c'est que je pense qu'il y a des moments où tu voyais comment elle faisait. Enfin, il y avait on était vraiment dedans, quoi. Donc, le travail continue aussi sur le plateau, quoi.
Le titre, c'est rien à foutre, mais est-ce qu'on peut dire que Cassandre, finalement, c'est pas du tout ça? Peut-être au début, elle ne prend pas ses responsabilités, mais en fait, après, elle s'assume, elle fait sa formation contrainte et forcée. Et est-ce que c'est le fait de rentrer chez elle, de retrouver sa famille, qui va lui permettre quand même de rebondir et finalement de ressortir la tête hors de l'eau?
Rien à foutre, c'est aussi un titre, enfin c'est une forme d'autoconviction. En fait, c'est aussi quelqu'un qui essaye de se persuader qu'elle en a rien à foutre. Et finalement, le film s'attache aussi à montrer à quel point elle en a tout à foutre. Et en tout cas, oui, sur le retour chez soi, enfin, un peu en miroir de ce rien à foutre là, je pense que c'est à nouveau, c'est Cassandre, c'est aussi quelqu'un qui a voulu partir le plus loin de chez elle, enfin, et essayer de se détacher le plus possible, et qui se rend compte à quel point elle est viscéralement attachée à un lieu et à des gens, en fait, et comment elle va aussi reconnecter avec les autres et retrouver cette forme d'attachement à un lieu qui lui est viscéral, quoi.
En fait, on est toujours, c'est un film sur lequel, si elle apprend une chose, c'est à quitter plutôt qu'abandonner, en fait. À la fin, elle quitte sa famille, mais elle est plus dans le truc où elle l'abandonne. C'est pas pareil que d'abandonner. Quitter les gens, c'est pas comme d'abandonner. Après, rien à foutre, c'est pas que l'histoire de Cassandre. Mmh. C'est aussi l'histoire de notre monde qui est symbolisée par les compagnies low cost. Et les compagnies low cost, les gens, que ce soit leurs employés ou les clients, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire toute personne qui a eu au moins dans sa vie, ce qui arrive à tout le monde, une inquiétude sur la taille de son bagage cabine, en fait ressent ça, cette espèce de violence où en fait, si vous avez un problème, on vous dira bah non, il faut payer plus cher et puis on n'écoute pas votre histoire, quoi. Le rien à foutre, c'est d'abord le rien à foutre de Cassandre, mais c'est aussi elle qui se confond au rien à foutre du travail actuel, quoi.
C'est vrai que finalement, à la limite, on n'oserait plus prendre Ryanair maintenant quand on a vu le film. Hein.
À 25 euros le billet, je ne suis pas sûr qu'on essaie de prendre ça. Mais non, après, c'était. Mais c'est un film qui est effectivement clairement quand même adressé à certaines pratiques de l'aviation.
Ouais, c'est un truc de pratique, c'est-à-dire qu'en même temps, Ryanair à nouveau emploie plein de gens et il y a des gens qui aiment leur métier et qui le font. La question en tout cas que ça pose, c'est à quel prix ? Et quand on paye un billet à 15 balles pour aller à le bout de l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire derrière en fait ? Et quelles sont les conditions qui sont créées pour pouvoir permettre un billet à 15 euros quoi ?
Cassandre a toujours l'air d'être en transit. Est-ce que, en tant que comédien, vous n'avez pas parfois cette sensation-là, Adèle ?
Si, je pense qu'il y a des similitudes et dans les masques un peu sociétales que doivent prendre les hôtesses de l'air, dans ce qu'elles incarnent, dans le fantasme et dans le côté très rassurant quand elles sont dans les airs parce qu'elles sont face à des gens qui quittent certaines personnes pour en retrouver d'autres ou qui vont. Enfin voilà, il y a quelque chose avec le voyage de l'ordre de l'humain qui raconte quelque chose de très fort et ce transit de solitude où tu vis des choses en même temps très intenses et en même temps t'es dans un hôtel loin de ta réalité à toi, de ton quotidien, de ce que t'essayes de construire dans ta vie personnelle, ça a un lien avec le peut-être le métier qu'on fait, mais on va pas se mentir, c'est pas du tout les mêmes conditions.
Et un des moments forts, c'est lorsque Cassandre va parler à cette passagère qui va subir l'opération. Finalement, il y a quand même un contresens entre ce qu'on enseigne au number one, en tout cas dans sa formation, cette empathie, et au contraire, finalement, quand elle a cette empathie, on lui reproche par après. Ça doit être dur, finalement, comme sensation, non ? Et peut-être à jouer ?
Non, j'ai plus de facilité à jouer l'empathie que jouer le manque d'empathie, même si je trouve les deux extrêmement intéressants puisque ça reste du jeu. Mais pour le coup, c'est pour moi vraiment ce que ça raconte, ce que raconte le film aussi, c'est quelles sont les limites des règles qu'on nous impose et jusqu'à quel point et à quel prix on les suit ou pas, quand c'est de l'ordre de l'humain, que ce soit la jeune fille qui veut retrouver son frère et qui doit payer un surplus mais qui peut pas se le permettre, que ce soit cette jeune femme qui a juste besoin d'être écoutée mais on peut pas se le permettre. Et je trouve que ça incarne quelque chose encore plus aujourd'hui où c'est vrai que j'ai le sentiment, hein, mais en termes général, sans être pessimiste, parce que heureusement que j'ai beaucoup de choses qui me prouvent le contraire dans ma vie personnelle, mais qu'aujourd'hui on est quand même dans une société où on prend le moins le temps de s'écouter et de se comprendre parce que beaucoup de fatalités et d'épreuves à côté, mais je trouve que ce genre de scènes qui pourraient être banales sont un énorme écho dans les soucis profonds de notre société.
Ces images épinales quand même qu'il faut renverser, ça ne doit pas être évident à construire au niveau du scénario, non ?
Il n'y en a pas, donc...
Il suffit d'écouter les gens, hein, en vrai. En vrai, il suffit d'aller voir les gens et dire « racontez-moi votre histoire ». Et en fait, à chaque fois, on est étonnant. Non, la difficulté, c'est d'être à la hauteur de toute la richesse qu'ils nous proposent, en fait. C'est ça aussi, et c'est là où c'est formidable de travailler avec une actrice, parce qu'en fait, au travers du jeu de l'actrice, elle peut être... Nous, on voit dans Cassandre, je sais pas combien d'hôtesses qu'on a vues, en fait. Et en même temps, il y a quelque chose de magique où, en fait, c'est plus que ça. C'est Adèle qui devient Cassandre, et en même temps, qui a été nourrie de tout ça. Et on sort des, oui, les clichés, je dirais. Moi, en ayant fait ce film, je me demande comment ils arrivent encore à maintenir les clichés d'hôtesses de l'air. C'est plus ça, c'est plus pour vraiment le... Je me demande comment ils font.
Adèle, Julie et Emmanuel, un grand merci en tout cas.
Merci.
Et donc on rappelle, le film est normalement annoncé pour le 16 mars.
C'est ça, 16 mars en Belgique. En Belgique, ouais.
Merci à vous en tout cas.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Recording stopped.
Merci Jean, merci beaucoup.
Non, le 2 mars.
Le 2 mars en France.
Ah d'accord, ok.
C'est une radio belge.
Oui, d'accord, je me disais pourquoi tu es en Belgique.
Ben, merci Jean.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Bonne soirée, bon courage.